Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Démarrent aujourd'hui les états généraux de la bioéthique. C'est un vaste processus qui va se déployer en France jusqu'au mois de juillet, dans un premier temps, avant la révision de la loi de bioéthique qui est, elle, attendue à l'automne prochain. Dites-nous en quelques mots l'enjeu du processus lancé aujourd'hui.
L'enjeu, c'est donc de démarrer ces états généraux, c'est-à-dire d'avoir un temps un peu citoyen sur lequel chacun va pouvoir discuter, s'emparer de sujets qui sont difficiles. Le modèle français est un modèle particulier puisque on remet ça sur la table, la révision de la loi bioéthique tous les 7 à 8 ans. C'est différent, par exemple, aux États-Unis, qui permet d'associer à la fois le citoyen, le scientifique et bien sûr, dans un deuxième temps, le politique.
Qu'attendez-vous des citoyens dans ce grand débat qui s'ouvre ?
Dans quelle France on veut vivre demain ? La révolution scientifique est en marche, on ne l'arrêtera pas. Le temps de doublement des connaissances est considérablement accéléré dans beaucoup de domaines. L'intelligence artificielle, les nouvelles techniques de génomique,
on va y venir.
Sur des sujets qui sont complexes. Et les états généraux, c'est un temps d'écoute et un temps un peu d'intelligence collective qui font qu'on sort du débat d'experts et qu'on va vers le citoyen et qu'on essaie de recueillir finalement quelle est sa vision et quelle est finalement sa préférence pour tel ou tel type de sujet ou tel type de grandes questions qui se posent.
Jean-François Delfrécy, il y a des sujets, vous le savez, nous le savons, dont on peut imaginer qu'ils soient polémiques ou qu'ils puissent ouvrir sur des débats plus ou moins vifs comme la PMA ou encore la GPA. Dans un autre registre, il y a aussi l'anonymat des dons de gamètes. Vous comptez les aborder, les traiter comment, ces sujets-là ?
Alors d'abord, les états généraux, on a souhaité que tous les sujets soient sur la table. Hein. C'est un événement qui est pas tous les jours, y compris des questions sociétales qui sont évidemment complexes, mais c'est le moment d'en parler. C'est le moment que les gens puissent s'exprimer en essayant que ça ne soit pas uniquement les extrêmes et qu'on ait vraiment quelque chose d'aussi construit que possible. Alors comment ça va se faire ? On a 4 outils. Un outil de site web qui permettra à la fois d'informer, de déposer des motions. Un outil de débat avec les espaces éthiques régionaux en région. Et actuellement, on est à plus de 60 débats qui sont prévus à partir de fin janvier jusqu'à fin avril, y compris en Outre-mer également, sur l'ensemble des sujets qu'on réévoquera ensuite.
Et donc vous dites aux Français, saisissez-vous
allez-y,
de cet outil.
Saisissez-vous.
Parlez, hein,
on va essayer, c'est le moment.
Ce qui bout dans votre marmite.
On va solliciter via les pharmaciens, via bien sûr l'ensemble des sites web. C'est le moment. Par ailleurs, le CCNE va auditionner à la fois les scientifiques, les sociétés savantes, mais aussi l'ensemble des associations. Je pense que personne ne sera vraiment content à la fin du résultat, mais je souhaiterais que ceux qui peuvent être auditionnés, ils aient un message et ils soient auditionnés. Hein, c'est vraiment... Et donc, c'est le moment ensuite de nous demander ça. Et enfin, on a un comité citoyen qui nous accompagne. C'est-à-dire, c'est un comité qui a un regard critique sur ce qui est en train d'être fait.
Avec des citoyens lambda.
Avec des citoyens lambda qui va être sélectionné, formé, qui vont être pris en compte à partir donc de début février.
Mais est-ce que le comité d'éthique va prendre une décision claire, formulée, un avis clair sur les sujets qui sont très, très délicats, j'en citais quelques-uns, où vous allez essayer de cultiver une ambiguïté qui vous protégera ?
Non, on va avoir deux temps. Un premier temps où le comité d'éthique s'efface là pendant les 5 mois qui viennent. On est là pour recueillir ce qu'on écoute, ce qu'on entend et on fera d'ailleurs un rapport de synthèse sur les états généraux. On va être aussi neutre que possible. Hein, nous avons déjà émis un avis sur la PMA. Là, pendant cette période, on va être aussi neutre que possible. On est là pour guider, pour essayer d'organiser au mieux cette discussion citoyenne. Et puis, dans un deuxième temps, à l'été probablement, après la fin de ces états généraux, eh bien, le comité d'éthique reprendra sa position habituelle, qui est d'émettre un avis, et il émettra une série de recommandations sur ce qui nous paraissent être des thèmes prioritaires.
Alors, on le disait il y a quelques instants, Jean-François Delfrécy, il y a d'autres sujets extrêmement lourds qui ne font pas la une, qui ne sont pas traités de manière aussi polémique que ceux que j'évoquais. Mais dites-nous quels sont les enjeux éthique autour d'une question comme le big data, les masses de données de santé qui existent aujourd'hui sur chacun d'entre nous. C'est quoi le problème ?
Les enjeux éthiques sont que, d'abord, les acteurs de Big Data ne sont plus des acteurs de santé. Hein, c'est les acteurs de type Google ou les équivalents chinois ou asiatiques qui sont autour de ça. C'est le fait que les rapports entre les médecins et les patients, c'est depuis maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est construit autour, finalement, de la capacité du patient à donner un avis sur l'ensemble des données qui le concernent. Mmh. On appelle ça le consentement éclairé. Alors, quand on est dans les big data, on est complètement dans une autre dimension. Hein. Les big data permettent, il y a des progrès en médecine considérables liés aux big data qui permettent de rassembler toute une série d'informations. Puis il y a aussi une série de données individuelles qui sont une maladie dans un contexte sociétal qui est intéressant, mais qui change complètement la donne et avec des partenaires qui sont sans gouvernance sur les domaines de santé. Mmh. Voilà un premier exemple. Le second,
Questions d'anonymat, j'imagine.
Sur les questions d'anonymat. Le second, sur l'intelligence artificielle, par exemple, c'est les robots.
Quel est le problème éthique d'avoir un robot qui fait très bien le travail avec un bras et une main qui ne tremblent pas ?
Il n'y a pas de problème éthique. Ce qui compte, en effet, c'est finalement la technicité. C'est une avancée de la médecine. Mmh. Vous allez signer un consentement éclairé à un robot ?
Je suis en train de réfléchir, à celui qui l'a programmé, dans le cadre d'un hôpital.
Ça pose toute une série de questions.
J'imagine, mais vraiment des problèmes éthiques.
Oui,
on peut pas considérer que le robot est un pur outil.
La radiologie interventionnelle ou tout ce qui va être neuroradiologie va être essentiellement réalisé par des machines qui vont être plus fiables que la vie humaine d'ici une dizaine d'années. Et c'est tout le rapport entre l'homme, le médecin et la machine.
Parlez-nous de ce qu'on appelle les ciseaux génétiques qui posent un problème éthique, ai-je lu ? Je ne sais pas de quoi il s'agit, expliquez-nous.
Alors, nous avons de nouvelles techniques qui permettent d'aller découper des petits morceaux de notre génome, c'est-à-dire de notre capacité finalement à nous reproduire. On peut imaginer qu'en faisant une fécondation in vitro, ensuite on peut travailler sur l'embryon et modifier le patrimoine génétique de cet embryon. Vous êtes dans une famille où ils avaient une maladie, où le gène a été identifié, et où on peut imaginer qu'en coupant ce morceau de gène, eh bien, on retire ou on diminue considérablement la chance de développer la maladie pour des descendants suivants.
Bah c'est bien ça, non ?
Ça, c'est bien. Mmh. C'est une avancée de la médecine. Mmh. C'est une nouvelle médecine. C'est la médecine des 2020-2030.
Alors, où est le problème, docteur ?
Eh bien, le problème, c'est qu'on peut aussi couper et sélectionner à partir de ces ciseaux génétiques, eh bien, les DNA qui nous intéressent, c'est-à-dire des garçons qui sont grands, qui sont blonds, qui vont faire polytechnique, et au détriment d'autres choses. On est avec ce type d'outil, l'utilisation des ciseaux génétiques sur les cellules germinales, c'est-à-dire sur les cellules de la reproduction, eh bien, on peut modifier au sein d'une ou deux générations ce qu'on peut produire. Question posée. Qu'est-ce qu'on met comme garde-fou ? Hein, les Chinois sont en train de démarrer les essais autour de cela. On a bloqué les choses à la fois aux États-Unis et pour l'instant elles sont bloquées en France. Quel garde-fou nous mettons à ce type de technique ? C'est à la fois une avancée et c'est à la fois des garde-fous.
Jean-François Delfrécy, est-ce que les progrès aujourd'hui ne sont pas tellement rapide qu'à un moment, peut-être pas demain, peut-être pas à l'automne, peut-être pas dans la prochaine loi de bioéthique, à un moment, la bioéthique va être débordée, avec des acteurs qui pourront agir dans un sens, dans un autre, et nous, on sera en France, en Europe, et voilà, on n'aura plus la maîtrise de ces outils ni des enjeux éthiques.
C'est pas qu'on n'aura plus, on a déjà plus la maîtrise d'un certain nombre de ces outils. C'est pas une raison, je dirais, pour ne pas réfléchir sur un certain nombre de ces sujets, avec une réflexion qui ne vient pas seulement des experts, mais qui essaie, avec une série d'explications sur des sujets qui sont parfois complexes, eh bien, d'entendre ce que pensent, eh bien, nos citoyens. Et ça, c'est là tout l'enjeu. Et finalement, de ces états généraux.
Parce qu'on se dit que ce qui est techniquement possible doit être réalisé, même si éthiquement, il y a un immense problème. Alors, mais la puissance de la technique est telle.
Moi, vous savez que je suis un scientifique.
Mais oui, je sais bien.
Donc je ne vais pas, et fondamentalement, on n'arrêtera pas la science. Et la science doit avancer. Si la science n'avait pas avancé, on serait encore dans une médecine préhistorique. À l'inverse, la science avance beaucoup trop vite maintenant pour les questions qu'on est en train de poser. Donc c'est le moment, en effet, de s'interroger. Où nous voulons aller? Dans quel monde nous voulons vivre demain?
1000 questions encore à vous poser, Jean-François Delfraissy. On se retrouve avec Léa Salamé, avec les auditeurs de France Inter.